Bonjour à tous. Alstom, Airbus, Total, BNP, Siemens, les entreprises françaises et européennes sont-elles victimes de stratégies de déstabilisation de la part des États-Unis? Assiste-t-on à une nouvelle guerre froide d'un autre type? Invité de la grande table des idées aujourd'hui, le politologue Ali Laïdi, auteur de « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » chez Actes Sud. Mais d'abord, elle danse avec les cendres dans H, mise en scène par Aurélien Bory. Créée au festival Montpellier Danse, la pièce se joue actuellement à la Nouvelle Scala parisienne jusqu'au 1er mars. Après Bourges, Châteauroux et avant Istres et Caen en mai prochain. La danseuse et chorégraphe indienne Chantala Shivalingappa est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et cette pièce H est un seul en scène. Bonjour Chantala Shivalingappa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ici, vous dansez en solo, yeux ouverts, mes lèvres serrées. La respiration passe par le nez, comme la vie, paraît-il. Êtes-vous aussi calme à l'intérieur que vos expressions semblent l'indiquer ?
Alors c'est vrai que ce spectacle me plonge dans cet état justement d'un calme intérieur absolu. Et c'est vraiment dans cet état que j'arrive à manier l'énergie de la manière la plus concentrée et intentionnelle, c'est-à-dire de la rendre explosive parfois et plus lente parfois, enfin de vraiment calibrer l'énergie autour de moi. Voilà, ça vient de cet état de calme intérieur. Et donc c'est un spectacle qui demande cet état. Et ça, c'est un beau cadeau.
Il se passe quoi dans votre tête pendant cette heure entière où vous dansez? Qu'est-ce qui se joue?
Eh bien, justement, il ne se passe rien dans ma tête. C'est-à-dire qu'on est dans un état où c'est plus, les choses ne se passent plus dans la tête. La tête est d'une clarté, d'une espèce de limpidité et de vide, où les choses deviennent... Où les choses deviennent beaucoup plus dans un ressenti, dans une intuition et dans une sensation. Et là, on peut sentir évoluer au fil des dynamiques avec la musique, avec les différentes scènes, avec la scénographie. Enfin voilà, suivre le fil du spectacle sans du tout passer par une réflexion ou un voyage raisonné ou intellectuel, mais vraiment par quelque chose qui est dans une autre dimension.
Et vous mélangez sur scène, dans H, deux types de danse, la danse contemporaine, comme on la connaît traditionnellement en Europe, et une danse traditionnelle indienne. Comment vous avez articulé les deux? Quels sont les pas qui reviennent à l'une des danses et les pas qui reviennent à l'autre? Comment ça s'imbrique?
Alors en fait, dans mon approche, c'est jamais vraiment l'idée, c'est jamais de mélanger les styles ou les formes. Je suis formée dans la danse, dans un style de danse classique indienne qui s'appelle le Kuchipudi, qui est un des styles du sud de l'Inde, qui est un style bien sûr extrêmement, comme tous les styles de danse indienne, extrêmement codifié et avec une forme et un vocabulaire très précis, très complexe. Ça, c'est ma formation. C'est donc les racines, on va dire. Et puis, parallèlement à ça, j'ai, depuis quelque temps déjà, commencé un chemin dans la danse contemporaine, c'est-à-dire dans l'exploration du mouvement qui ne vient pas d'un vocabulaire précis, qui vient d'autre part. Voilà. C'est un travail que j'ai surtout commencé
avec
Pina Bausch, oui. Mmh. Et que j'ai continué avec d'autres grandes rencontres. Donc, dans H, la danse qu'on voit n'est pas d'une forme particulière. Elle découle de tout ce qui m'a nourri, de tout ce qui m'a imprégné et qui m'habite aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que parfois, oui, on a l'impression que c'est des mouvements indiens ou que c'est de la danse indienne. Mais en fait, il n'y a pas de vocabulaire précis. C'est juste que, voilà, ça c'est les racines qui m'ont nourri. Et évidemment, c'est quelque chose qui va être visible. Et je danse de la manière dont je danse pour ces raisons-là et à cause de ces influences-là. Mais l'approche et la manière de danser dans H, en fait, découle plutôt d'une volonté de réagir à l'espace extérieur et à un espace intérieur de la manière la plus juste dans la dynamique et dans la forme, mais sans jamais chercher un vocabulaire précis. Au contraire, pour aller au-delà d'un vocabulaire.
Mais c'est quand même une danse très terrienne. On a l'impression que l'énergie, les racines peut-être aussi, viennent du sol. Vous avez les pieds très ancrés dans le sol, hein. C'est pas des danses plus aériennes comme on a pu le constater. Quelles sont, oui, du coup les parties du corps que vous mobilisez le plus pour cette pièce H? Les pieds, le torse, la main?
En fait, je dirais tout. C'est une danse assez totale. C'est vrai ce que vous dites, que les jambes sont très ancrées et très, très puissantes. Mais c'est ça qui donne aussi la fluidité du torse et des bras. C'est l'ancrage dans le sol qui donne cette liberté dans le haut du corps. Donc, tous les points sont importants et toutes les parties du corps travaillent ensemble.
Et c'est une pièce H tout en percussion. C'est un seul en scène, je le disais, vous dansez en solo, Chantal Shivalingappa, dans ce H, mis en scène par Aurélien Boris. D'ailleurs, ce sont vos seuls interlocuteurs. C'est la musique de Loïc Schild qu'on entend là et le décor imaginé par le metteur en scène avec lesquels vous dialoguez. Cette musique, ce décor, Boris, qui dit être parti de vous, de votre histoire, pour déployer sa scénographie. On l'écoute.
J'aborde le théâtre comme un art de l'espace et j'essaie toujours de faire danser l'espace. Et là, il s'agit un peu de l'espace intérieur d'une personne, de finalement qu'est-ce qui l'a motivée à danser, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi elle danse finalement. Donc ça, c'est à la fois un spectacle de danse, mais c'est aussi, il y a du théâtre là-dedans parce que on cherche à rencontrer une personne. Il s'agit de son parcours de vie, qu'est-ce qu'elle aura fait dans sa vie, elle aura dansé.
Ah, et là, on a envie de savoir ce que vous lui avez dit, ce que vous lui avez raconté de vous, qui lui servent de point de départ à sa dramaturgie, votre parcours de vie, ou les émotions que vous procure la danse. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme indice?
Alors, avec Aurélien, c'est vrai qu'on a eu le temps de grandes, longues conversations espacées dans le temps, parce que ça a duré 4 ou 5 ans, notre grande conversation qui a précédé la création de H. Et on a beaucoup parlé de l'Inde, de la danse, du mouvement, aussi de l'intention qui motive, en fait, la danse et les arts en Inde. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une attention très très particulière à la forme, et que ce sont des formes très sophistiquées et codifiées, et donc il y a un apprentissage assez rigoureux. Mais ce qui motive, l'intention qui anime en fait la danse et les arts en Inde, c'est vraiment cette intention d'accéder à une dimension qui est au-delà de la dimension physique, c'est-à-dire de célébrer et d'accéder à cette dimension qui est celle qui est invisible, en fait. Celle qu'on ne peut pas voir avec nos sens, qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens, mais que l'art peut permettre de toucher, de pressentir, de faire l'expérience au plus profond de soi. Donc on a beaucoup parlé de ça. Et aussi de la figure de Shiva, qui est celui du dieu de la danse, un dieu très important en Inde, qui est celui qui... Sa danse soutient l'univers. On dit que c'est Shiva qui tient un petit tambourin dans sa main, et c'est ce tambourin qui donne le rythme à l'univers entier, et que s'il s'arrête de danser, eh bien l'univers disparaît. Donc c'est une figure qui est vraiment fondamentale au cœur de l'existence, et en même temps c'est aussi le dieu de la destruction. Donc il incarne...
C'est une personnalité double, à la fois créateur et destructeur.
C'est ça, il incarne toutes les contradictions. Et c'est vraiment une métaphore de l'existence, puisque l'univers est plein de contradictions et vit à travers toutes les dualités. Donc Shiva est une figure qui incarne tout ça. La vie et la mort, c'est celui qui est recouvert de cendres, justement. Et la cendre, c'est le rappel de notre mortalité, un rappel constant d'avoir conscience de notre mortalité. Et en même temps, la cendre, elle régénère, elle donne vie. Donc la mort et la vie vont ensemble. Donc on a beaucoup parlé de Shiva et on s'est rejoint aussi sur la physique quantique, puisque Aurélien vient d'un domaine scientifique et moi j'ai toujours été passionnée par la physique quantique. Pour moi, Shiva, c'est vraiment une métaphore. Alors c'est une figure importante dans la culture indienne, mais c'est une métaphore existentielle, puisque la physique quantique nous dit que au cœur de tout, il y a la vibration, ce qu'on appelle les supercordes. Et cette vibration fondamentale, universelle, est la même au cœur de tout. Et Shiva, pour moi, c'est vraiment, il est l'incarnation de cette idée qu'au cœur de tout, il y a le mouvement et la vibration. Et voilà, donc ça a beaucoup nourri nos conversations et puis la création du spectacle.
Et vous terminez tout en cendres dans H. On retrouve, vous l'évoquiez, cette figure de Shiva et on retrouve l'importance de la matière. Je vous propose de partir en Inde avec un court extrait d'un reportage sur les cendres, ces cérémonies où l'on se jette des cendres.
Ces hommes ne jettent pas de la farine ou du sable, mais des cendres humaines. C'est la période du Holi en Inde, une fête dédiée à Krishna. On l'appelle aussi la fête des couleurs. À Varanasi, dans le nord du pays, la population chante et danse, et elle lance aussi les cendres de ses défunts dans les airs. Drôle de manière de rendre hommage à leurs proches disparus, mais cette tradition remonte à des temps très anciens. Elle est notamment évoquée dans le texte sacré Skanda Purana. Varanasi est célèbre pour ses célébrations de naissance et ses rites funéraires. Elle fait partie des 7 villes sacrées de l'hindouisme et serait l'une des plus anciennement habitées au monde.
Voilà, cette drôle de manière, comme dit la journaliste probablement française. Reportage donc à Varanasi en Inde, où on est confronté aussi dans le spectacle à un autre rapport à cette matière que sont les cendres, qui pour nous sont extrêmement liées à la mort, sont liées à la disparition, sont liées à la fin de tout. Elles sont interprétées autrement ici. Il y a un souffle de vie qui parcourt aussi ces cendres blanches.
Mais comme je disais, en fait, en Inde, le rapport à la mort est assez omniprésent, c'est-à-dire que chaque jour, dans le rituel quotidien que chaque Indien va avoir chez lui, on prend une petite pincée de cendre sacrée et on la met sur notre front. Et ça, c'est une manière de se rappeler notre mortalité à chaque instant, quotidiennement, et aussi justement de, à ce moment-là, vivre la vie pleinement, puisque la mortalité nous fait voir comme la vie est précieuse. Donc pour nous, la cendre symbolise vraiment ces deux choses-là. Et Shiva est un dieu qui danse, et qui danse justement dans les champs de crémation, qui danse là où il y a la mort, donc pour faire revivre les choses. Et dans H, on est vraiment parti de descendre dans cet état-là, c'est-à-dire l'état où quand quelque chose est détruit, quand il n'y a plus rien, ce qu'il reste, c'est la cendre. Et à partir de cette cendre, il est possible de revivre et de recréer. Donc vraiment le fil de la vie et de la mort qui continue, et que tout est un cycle, et qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Ça, c'est une idée qui est très chère à la pensée indienne. C'est que tout est un cycle et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de quelque chose. Il y a une existence, un espace infini qu'on ne peut pas sonder avec nos sens ni comprendre avec notre mental. Et il nous faut donc d'autres outils pour parvenir à en faire l'expérience et l'art serait un de ces outils.
Vous évoquiez la spiritualité, si j'en reviens au corps, si j'en reviens aux images, est-ce que toute l'iconographie hindoue vous a, vous aussi, inspiré pour votre chorégraphie ?
Alors, l'iconographie des temples, par exemple, toutes les statues et toutes les représentations des dieux sont vraiment des appuis très forts pour la danse indienne, puisque quand elle a été recréée après l'ère coloniale, on s'est vraiment appuyé sur ces traces qui nous viennent des temps anciens pour recréer la danse. Donc, ça, dans notre apprentissage, on passe un moment vraiment à examiner et à se nourrir de ces images-là. Donc c'est quelque chose qui a fait partie de mon apprentissage et de mon chemin dans la danse indienne. Et évidemment, ça se retrouve dans H d'une manière détournée, peut-être, je dirais. Mais c'est très présent dans la géométrie de mon approche au mouvement, je pense.
Et c'est un portrait intime aussi, cette pièce que vous a dressée, concoctée par sa mise en scène Aurélien Bory, que vous interprétez comme danseuse, mais que vous avez aussi pensé comme chorégraphe. Il y a quelque chose de vous, indéniablement. D'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la scène, on vous sent très décidée, votre danse est très affirmée. Est-ce qu'il vous arrive quand même, parfois, de vous sentir perdu sur scène, au milieu de tous ces éléments qui sont plus grands que vous? Et on peut peut-être évoquer cette scénographie de Bory qui reprend un élément important et récurrent de ces pièces, cette bâche, cette grande toile qui se déchaîne, se déferle, vous avale parfois.
C'est vrai qu'il y a un côté d'une violence en fait dans ce spectacle avec les éléments qui se déchaînent autour de moi. Vous savez, dans la pensée indienne et aussi dans, très concrètement, dans l'apprentissage de la danse indienne, ce que j'ai reçu de mon maître en fait, l'intention c'est aussi de, en tant qu'interprète, de disparaître, de se mettre de côté pour que autre chose puisse apparaître, autre chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous traverse. Donc il y a vraiment une intention assez précise dans cette direction-là. Et dans H, ça prend forme et ça se matérialise presque au plus haut point, puisque l'environnement est propice à ce que je disparaisse. Quand je dis je veux dire cette structure individuelle de chaque personne, pour que ça puisse disparaître et autre chose de beaucoup plus grand apparaître. Et c'est pour ça que je dis que ce spectacle, c'est un cadeau, parce que ça m'oblige presque à me plonger dans cet état, qui est un état de clarté aussi, et de limpidité, puisque toutes nos structures qui sont des limites, qui sont des structures qui donnent des limites, oui, qui sont des espèces de formes géométriques, où, eh bien, tout ça disparaît et on est dans un espèce de grand espace vaste où tout est possible et où autre chose peut se manifester. Où ce n'est plus juste moi qui danse, mais voilà, il y a l'énergie de la danse et la dynamique du mouvement et des éléments autour qui peut se manifester et prendre sa place.
Il reste que tout votre corps est un outil de précision. On a tous été bluffés par ces cercles que vous tracez avec la pointe de votre orteil et la précision d'un compas. C'est assez impressionnant. Vous nous apprendrez à les réaliser?
On va faire un petit stage pratique.
Bien, alors en musique s'il vous plaît, France Culture, il est midi 19, presque 20, avec notre invitée aujourd'hui, Chantala Shivalingappa, qui est danseuse et chorégraphe à l'occasion de sa pièce H, mise en scène par Aurélien Bory.
J'ai connu mon heure de gloire, environ 2 années de mon vivant, où j'ai été la bête de foire, celui avec qui on veut passer du temps. J'ai connu le succès, la jalousie, et puis l'oubli. Et j'ai vu partir sans un bruit ce qui m'aimait dans la lumière pour entrer dans les années sombres. 30 minutes. Car quand mon heure est arrivée, la vraie, celle qui vous laisse inanimée, il n'y avait personne pour m'applaudir, il n'y avait personne depuis des années. 30 minutes. Il y a 30 minutes, je m'éteignais. Je trouvais l'apaisement radical dans un dernier souffle discret. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. Et voilà qu'on parle de moi au passé. L'information a circulé. Et celui que j'étais il y a 31 minutes laisse place à l'immense larme qui vient submerger la toile. Suffit de 30 minutes et ma page Wikipédia reprend vie en annonçant ma mort. Les souvenirs, les anecdotes, les ennemis qui hier encore m'auraient passé les menottes se pressent pour fleurir ma porte. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Et on ressort les photos parfaites. Celle de mes souvenirs juvéniles, les jours de soleil, les soirs de fête. C'était il y a 30 minutes, et ma vie a basculé. Alors je l'ai fini abandonné. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes ont suffi pour relancer ma carrière. Et mon nom prend des allures de nouvelles bonnes affaires. Famille se sèche les larmes, les crocs. de mort se frotte les mains. Je retrouve ma place sur cette terre, en route pour redevenir poussière. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes.
Un nouvel album qui nous fait voyager plutôt du côté du Brésil, celui du français Séverin Transatlantique, c'est le titre de cet album. Il chante le multiculturalisme, l'art de la rencontre à travers une pop légère qui se frotte parfois avec des rythmes de la bossa nova. C'est Séverin et c'était 30 minutes, presque le temps de notre émission, 30 minutes après ma mort.
France Culture, la grande table. Olivia Gesbert.
Et avec nous, une déesse des cendres, la danseuse et chorégraphe Chantala Shivalingappa, avec nous jusqu'à midi à l'occasion de son spectacle H. J'ai lu quelque part que vos débuts de danseuse étaient déjà placés sous le signe de Shiva. C'est vrai?
Alors, mon nom, Shivalingappa, déjà, et Chantala. Chantala, c'était le nom d'une reine du XIIIe siècle, qui était une grande danseuse et qui a inspiré des sculptures de temples de danse justement absolument magnifiques. Donc je pense que ma mère avait déjà une idée derrière la tête en me donnant ce prénom. Ma mère est danseuse. Et Shivalingappa, évidemment, c'est le nom de mon père. Mon père vient d'une communauté du sud de l'Inde dont le dieu principal, c'est Shiva. Donc c'est vrai que je pouvais difficilement échapper à la danse, j'ai l'impression. Oui.
Une mère danseuse, un père diplomate, vous avez voyagé avec ses pas de danse et ses chorégraphies depuis votre enfance. Vous avez été formée à la danse ensuite en France par Maurice Béjart. Vous êtes passée par la famille Pina Bausch, puis par celle de Sidi Larbi Cherkaoui, avant une autre rencontre importante, ou en même temps celle de Peter Brook, qui vous offre le rôle de Miranda dans La Tempête de Shakespeare au Bouffe du Nord en 90, puis Ophélie dans La Tragédie d'Hamlet. Quelle expérience ça a été pour vous? Il faut quand même se rappeler que Peter Brook, c'est celui qui a mis en scène l'épopée indienne du Mahabharata, c'était en 85, avant que vous le rejoigniez.
Oui. Grande découverte. Quand j'ai joué Miranda, j'avais 14 ans, qui est l'âge du personnage dans la pièce, et elle découvre un beau monde nouveau. C'était la même chose pour moi. Cette vie de scène, de théâtre, de tournée, de créativité, d'exploration, d'histoire, d'outils, de scènes, de voix, de mouvements. Une découverte immense, énorme, qui continue à dérouler son fil.
Et Brooke, c'était quelqu'un qui, comme Pina Bausch, était très attiré, très séduit par l'Indre. À ce sujet, autour de Pina Bausch et de cette fascination qu'elle avait aussi pour ce pays, celui de vos origines, écoutez Anne Lincel.
Pina Bausch était fascinée par l'Inde. Elle rêvait toujours de l'Inde. Les artistes et danseurs indiens ont dansé pour elle. Des chorégraphes indiens ont également travaillé avec elle. Elle a été fascinée par ses danses indiennes, ses chorégraphies. Et elle souhaitait en voir toujours plus. Et à l'époque, je lui ai demandé si elle voyait des relations, des rapports par rapport à sa danse à elle et la danse en Inde. Parce que c'est une danse qui est vraiment différente, c'est une danse des dieux et tous les mouvements sont vraiment précis, déterminés, et elle a enseigné une danse plutôt libre. Elle a dit oui, mais les danseurs indiens aiment comme moi les bras, les mains. Bien sûr, il y a des points communs. En outre, il y a toujours quelque chose qu'on ne saurait décrire, mais des points communs à tous les danseurs.
La réalisatrice et documentariste allemande Anne Lincel, née à Wuppertal, l'un des temples de la danse et du théâtre allemand, proche de Pina Bausch, qui parle de cette influence. Vous avez souvent dit que pour vous, ce que Pina Bausch vous a souvent transmis, c'était d'abord un autre langage, un tout autre langage.
Quand j'ai commencé à travailler avec Pina Bausch et la compagnie, J'avais 22 ans et je sortais, enfin j'étais encore dans cet état très intense d'apprentissage du Kuchipudi, qui est une danse très précise, codifiée et complètement écrite, complètement chorégraphiée, c'est-à-dire qu'on apprend des danses qui sont déjà faites. Et tout d'un coup là, il fallait produire du mouvement, chercher des mouvements, créer des mouvements à partir de rien presque, à partir d'une sensation, d'une idée, d'une image. Et ça a été une énorme découverte. Encore une fois, j'ai énormément observé tous les danseurs de Pina Bausch pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire ça, d'où ça venait et comment il fallait s'y prendre. Et j'ai essayé de faire mon chemin dans cette direction-là. Et voilà, je pense que c'est une plongée dans une approche totalement différente du mouvement et en même temps qui est comme disait Anne Linzel dans cette entrevue, c'est-à-dire que pour Pina, elle voyait des points communs partout, elle a toujours vu les choses qui rassemblaient les gens et les personnes et les danses, et donc pour moi aussi de voir que même si je venais d'une technique complètement différente, eh bien je pouvais moi aussi trouver ce chemin où on peut trouver une approche au mouvement qui ne vient pas d'un vocabulaire précis, mais qui vient d'une émotion pure ou d'une expression juste de ce qu'on traverse à ce moment-là.
C'était une déesse, elle aussi, Pina Bausch. Hein. Une déesse de quoi ? De la vie ? De la Renaissance ?
Quelqu'un vraiment avec un cœur immense, qui a travaillé, passionné bien sûr par son travail et par l'observation de l'autre, et par exprimer la vie très fortement, très intensément, et la vivre aussi.
Ces métissages, ce que vous avez pu pratiquer aussi, on peut les ouvrir, les pousser sans limite. C'est aussi ça que vous avez pu apprendre avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez continuer à élargir votre répertoire ?
Je pense que ce que j'ai appris avec Pina et avec en fait tous les grands avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment le sens de la rencontre humaine. Et de la vie, de la force, de l'intensité, de la vie et de vivre chaque instant pleinement et de l'exprimer aussi pleinement à travers tous les moyens qu'on a, et que la rencontre humaine est vraiment un moteur de tout ça et nous fait avancer dans notre chemin, et aussi c'est à travers le partage qu'on peut avancer ensemble, ce qui est très important.
Elle est gracieuse, gracile, une brindille et si forte à la fois. Vous êtes à voir absolument, Chantala Shivalingipa, en ce moment. Si vous passez par Paris, à la Nouvelle Scala parisienne jusqu'au 1er mars, on vous retrouvera ensuite à Istres et à Caen en mai prochain pour cette pièce H, mise en scène par Aurélien Bory, qui se joue donc actuellement. Merci beaucoup à vous d'être passé par nos studios.
Merci infiniment.